Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business, Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, bienvenue dans 60 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter comme tous les jours les dernières infos avec nos reporters, nos éditorialistes et nos invités. Au sommaire de ce vendredi 30 septembre, cette réunion de crise des ministres européens de l'énergie pour faire baisser les prix. Les 27 sont parvenus à un accord pour soulager les ménages et les entreprises. On va en parler dans les détails avec Thomas Sasportas. L'inflation ralentit en France en septembre. Les prix progressent de 5,6% sur un an selon l'estimation provisoire de l'INSEE, mais les chiffres sont bien plus importants si l'on regarde nos voisins européens. Pourquoi? Pierre Kupferman va répondre à cette question dans notre focus. Et puis à quelques semaines de l'entrée de l'hiver, la consommation d'énergie et les économies, surtout réalisées par les entreprises, vont être scrutées à la loupe. On va parler des solutions concrètes à adopter avec Pierre de Montiveau, président de la FEDEN, qui sera avec nous dans une dizaine de minutes. Et puis à 12h30, Lorraine Goumou nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission BFM avec vous. On répondra aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux et à cette adresse avec vous, @bfmbusiness.fr. Allez, tout de suite, c'est l'heure du journal. La hausse des prix à la consommation en France qui a ralenti en septembre, 5,6% sur un an contre 5,9% au mois d'août, selon les données provisoires publiées par l'INSEE. Ce recul de l'inflation qui est dû au ralentissement de la hausse des prix de l'énergie et des services, c'est ce qu'explique l'Institut. Tandis que la progression des prix de l'alimentation s'accélère sur la consommation des ménages, elle est restée totalement stable en août. On va y revenir dans les détails, dans notre focus dans quelques minutes avec Pierre Kupferman. On s'intéresse aussi aujourd'hui à cette nouvelle réunion de crise des ministres européens de l'énergie, justement pour faire baisser les prix. Et Thomas Sasportas, les ministres européens de l'énergie, sont parvenus à un accord ce matin.
Oui, la présidence tchèque de l'Union européenne vient tout juste de l'annoncer. Effectivement, trois mesures pour faire baisser et répondre à cette crise de l'énergie. La première d'entre elles étant le plafonnement des revenus des producteurs d'électricité. Mmh. Ça y est, on a cette mesure-là. Le niveau du plafond, c'est 180 euros du mégawatt-heure et la mesure, elle va durer entre le 1er décembre de cette année et le 30 juin 2023. C'est un mécanisme qui existe déjà en France. On s'en est rendu compte pour financer le bouclier tarifaire. Il va rapporter quasiment 9 milliards cette année et 19 milliards l'année prochaine. Et ce mécanisme, dans les grandes lignes, il va être étendu au reste de l'Europe. Tous les producteurs d'électricité et d'énergie non gaziers vont être concernés, c'est-à-dire les renouvelables, le nucléaire ou encore la biomasse. Et le mécanisme, je vous rappelle, c'est que les revenus au-delà de ce plafond, qui a donc été fixé à 180 euros du mégawatt-heure, vont être captés par les États pour être ensuite redistribués aux ménages et aux entreprises. La deuxième mesure sur laquelle les Européens viennent de se mettre d'accord, c'est une contribution exceptionnelle des producteurs d'énergie fossile. Ça aussi, ça y est, on a une forme de taxe sur les super-profits dans le pétrole. Dans le détail, les 27 vont taxer les profits réalisés en 2022 des activités de production et de raffinage pour le pétrole, le gaz et le charbon. Le taux sera d'au moins 33% sur 20% des profits qui excèdent la moyenne des 4 dernières années. Mmh. C'est un peu technique et compliqué, mais c'est comme ça que ça va se passer. Et puis la dernière mesure, les 27 fixent l'obligation de réduire de 5% leur consommation d'électricité pendant les heures de pointe, et ils recommandent même de monter jusqu'à 10%. C'est typiquement ce que prévoit le plan de sobriété français qui va être présenté la semaine prochaine, le 6 octobre. Donc voilà les trois mesures sur lesquelles les Européens se sont mis d'accord à l'instant, mais toujours pas d'accord en revanche sur des mesures sur le point le plus important, qui et de faire baisser les prix. Tout ça sont des mesures pour redistribuer, pour faire baisser la consommation, mais pas pour faire baisser les prix. Et là, les Européens continuent de bosser sur trois pistes, essentiellement. Plafonner les prix du gaz, comme le fait l'Espagne. Acheter du gaz à la Norvège, qui est devenue de loin le plus gros fournisseur de gaz en Europe, mais acheter à des prix raisonnables. Et puis faire baisser les prix spot de l'électricité sur les marchés. Aujourd'hui, le plafond est à 4000 euros du mégawatt-heure. On veut faire baisser ce plafond à 3000 euros.
Merci beaucoup, Thomas Sasportas. Et de son côté, Bruno Le Maire convoque mercredi les fournisseurs d'énergie Énergie, Total Énergie, Engie, EDF à Bercy, le ministre de l'économie, qui leur demande des efforts supplémentaires pour garantir des prix raisonnables aux PME. Les énergéticiens qui devront signer un code de bonne conduite, les entreprises s'y engageront à fournir, je cite, toutes les PME françaises des tarifs d'électricité et d'énergie raisonnables, dans des délais raisonnables, avec des conditions raisonnables. C'est ce qu'a affirmé Bruno Le Maire.
Bon, c'est le mot de la semaine prochaine, raisonnable.
Exactement, on verra ça la semaine prochaine avec vous. En Allemagne aussi, la crise énergétique inquiète. 200 milliards d'euros, c'est le montant débloqué par le gouvernement allemand pour plafonner les prix de l'énergie. Annonce d'Olaf Scholz hier lors d'une conférence de presse à Berlin. Les négociations ont été tendues au sein de la coalition. Delphine Liu.
300 milliards d'euros, c'est le montant total de ce bouclier énergétique et de précédentes mesures de soutien au pouvoir d'achat. À titre de comparaison, la France a mis, elle, 66 milliards d'euros sur la table. L'Allemagne paye au prix fort sa dépendance au gaz russe. Elle a dû aller trouver d'autres sources d'approvisionnement sur le marché comptant où les prix ont explosé. Ces mesures de soutien vont coûter cher aux finances publiques allemandes. L'Allemagne va devoir emprunter sur les marchés financiers pour les financer. Or, la règle du frein à l'endettement, qui empêche d'aller chercher de telles sommes sur les marchés, devait faire son grand retour l'année prochaine, après avoir été suspendue pendant 3 ans pour cause de pandémie. Les libéraux du FDP, et notamment le ministre des Finances, très à cheval sur l'orthodoxie budgétaire, ont donc dû se résoudre à le reporter. Pour faire passer la pilule, le ministre vert de l'économie et de l'énergie s'est résolu à prolonger 2 centrales nucléaires encore en activité jusqu'en avril prochain.
Dans l'actualité également, le patron France de Danone, François Ayrault, qui était l'invité de Good Morning Business ce matin. L'occasion de faire un point sur ce conflit qui dure depuis une quinzaine de jours entre Danone et Intermarché. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les prix des bouteilles d'eau. On écoute Didier Duhaupon qui en parlait la semaine dernière sur notre antenne et puis la réponse de François Ayrault.
C'est un des combats que nous menons à la rentrée. Vous savez, je ne vais pas vous apprendre évidemment qu'il y a une inflation terrible, qu'il y a des événements importants, et puis un certain nombre d'entreprises, c'est Danone, ça peut être le groupe Mars, et d'autres grandes entreprises qui profitent de ces circonstances pour mettre des hausses vraiment pas raisonnables du tout. Chez nous, les prix dans nos usines, les prix de revient industriel augmentent de 7, 8, 9%, bon, suivant les catégories, et on se dit, ça sont des hausses raisonnables. Les premières hausses qui nous étaient demandées, c'était d'ordre de 22%. Ils jouent le bras de fer en nous livrant un petit peu moins, et ce bras de fer, nous sommes tout à fait disposés à le mener.
Une bouteille d'Evian 500 ml, elle est faite en plastique qui provient de plastique ou de bouteilles qui ont déjà été utilisées. Donc c'est une matière qui est différente du plastique conventionnel.
C'est plus cher ?
Oui, c'est beaucoup plus cher, ça augmente beaucoup plus vite et compte tenu des critères de qualité qu'on a pour avoir un produit irréprochable, effectivement, il y a des différences de coûts.
Voilà, et puis ça s'accélère pour la vente d'M6 après avoir confirmé leur intérêt la semaine dernière. Les prétendants avaient jusqu'à hier soir pour améliorer leur offre auprès de Bertelsmann. 2 prétendants tiennent la corde, Xavier Niel, associé au Berlusconi, et Stéphane Courbie avec CMA CGM. Simon Tannenbaum, Mathieu Pechberti.
La bataille pour le rachat d'M6 tourne au duel. Niel Berlusconi d'un côté, Courbie Saadé de l'autre. Les deux écuries sont prêtes à mettre autour d'1,2 milliard d'euros sur la table, à la hauteur des attentes financières de Bertelsmann. Daniel Kretinsky reste loin derrière et devrait se retrouver hors jeu. C'est maintenant le calendrier qui va déterminer la suite des événements. Le deal doit impérativement être bouclé début 2023 pour la remise en jeu de la fréquence d'M6. Celui qui pourra obtenir le plus rapidement l'aval des régulateurs sera le mieux placé. Bertelsmann demande aux prétendants de s'engager dès maintenant sur un calendrier. Si les deux camps assurent que leurs offres ne poseront pas de problème de concurrence, un examen sera tout de même nécessaire car Xavier Niel et Stéphane Courbie ont chacun d'importantes activités dans la production. Il faudra peut-être prendre des engagements devant l'antitrust qui pourra lancer un test de marché. Tout cela risque de rallonger les procédures. Le patron de Bertelsmann, Thomas Rabeu, sera à Paris ce week-end pour décider, au vu de ces risques, si le processus de vente d'M6 se poursuit.
Allez, c'est l'heure de notre focus. Pierre Kupferman est avec nous. On analyse ces chiffres qui sont tombés ce matin. L'inflation qui recule à nouveau en septembre. Pierre, selon l'indice provisoire de l'INSEE, les prix à la consommation ont reculé par rapport au mois dernier. Sur un an, on passe de 5,9 à 5,6%.
Oui, et ce recul, il n'était pas attendu. Le consensus tablait en fait sur une stabilisation. À quoi on le doit ce recul ? En partie à l'évolution des prix de l'énergie, puisque sur un mois, l'INSEE note une baisse de presque 3%. Et sur un an, la hausse des prix, elle est repassée sous les 18%.
Oui.
C'est lié à quoi ça? C'est lié évidemment aux ristournes sur le carburant. Il y a celle de l'État, on sait, qui est passée provisoirement à 30 centimes. Il y a celle de Total Energy aussi, hein, moins 20 centimes. Et ce qu'on note aussi dans les derniers chiffres de l'INSEE, c'est à la fois l'envolée des prix des produits alimentaires, qui s'intensifie, quasiment quand même 10% de plus sur un an, et puis les prix des services, qui pour le moment ont tendance à reculer, tout ça dans un contexte où la consommation des ménages stagne.
Zéro, hein. Ouais. Elle n'a pas du tout bougé, effectivement. La France qui, pour ce qui est de l'inflation, Pierre, fait de plus en plus bande à part en Europe.
Voilà, très très clairement, hein. Le niveau de notre inflation en données harmonisées, c'est 6,2%. Et donc, non seulement on a aujourd'hui le plus bas niveau de l'Union européenne, mais l'écart avec la moyenne de la zone euro est de plus en plus élevée, puisqu'on est quasiment à 4% de différence. Mmh. Je rappelle que la moyenne dans la zone euro, c'est 10% maintenant. Hein. La France, en fait, qu'est-ce qu'elle elle profite de son engagement budgétaire qui a visé à tempérer la hausse des prix pour de l'énergie pour les ménages. Mmh. Et cette politique, elle a été à la fois très précoce et, disons, très volontariste. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le voit, hein, c'est que d'autres pays nous suivent.
Delphine Lignoux
nous a parlé de l'Allemagne et de ses 200 milliards, mais il y a d'autres pays qui nous suivent.
Alors, de ce point de vue, la comparaison justement avec deux pays de la zone euro est très parlante. Les chiffres sont incroyables.
Ah oui, c'est flagrant. Ces deux pays, c'est la Belgique et les Pays-Bas. Donc, on commence avec la Belgique. Vous savez qu'en Belgique, les salaires sont indexés sur l'inflation. C'est d'ailleurs le seul pays avec le Luxembourg qui a conservé ce principe. Principe que la France a cessé d'appliquer, elle, en 1983. Et cette spécificité, elle fait que la puissance publique, c'est financièrement très peu impliqué pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie. Mmh. Normal, hein, les salaires suivaient. Bon, et ben du coup, en Belgique, l'inflation vient de passer à 12%. Et 12%, c'est un niveau que le pays n'avait plus vu depuis 1975. Mmh. Et là, on peut dire qu'on a un vrai risque de boucle inflationniste.
Cette boucle que nous, on essaie désespérément justement d'éviter avec les entreprises. Et la situation néerlandaise est encore différente, Pierre.
Oui, parce que là, on est dans un pays de tradition très libérale, très attaché à la discipline budgétaire. Vous savez qu'aux Pays-Bas, l'État, finalement, sa vocation, c'est pas de jouer les nounous comme chez nous. Sauf que en septembre, l'inflation a atteint un niveau que les Pays-Bas n'avaient pas connu depuis, alors là, écoutez bien, 1945, ouais. Plus 17,1% en données harmonisées. C'est complètement dingue. Et ça explique la toute récente décision du gouvernement néerlandais d'intervenir financièrement pour imposer aux fournisseurs d'énergie un plafonnement de leur prix. Alors, ça va coûter entre 6 et 10 milliards d'euros. Et ça devrait faire redescendre la pression, disons, à partir de cet automne, sans doute à partir de novembre.
Ils sont perdus du temps, on peut dire qu'on a été en avance pour une
Exactement.
Fois.
Exactement.
Merci Pierre, on va vous retrouver tout à l'heure pour le top 3 des articles les plus lus sur notre site BFM Business. Allez, on fait un point tout de suite à Euronext. Avec vous, Aude Kersulek, aujourd'hui on est finalement en hausse ce midi, il faut voir maintenant si cela va tenir.
Oui, le CAC qui gagne plus 1,1%. Et ça, c'est toute la question, hein, de savoir si ça va tenir. Parce que là, on voit que cette dynamique de rebond, elle tient grâce à des rachats à bon compte. On monte ce midi, hein, grâce à des hausses sur des valeurs qui avaient beaucoup baissé ces derniers jours parce que considérées comme risquées. C'est notamment le cas d'Unibail Rodamco qui prend plus 5%, alors que c'est une valeur qui est généralement mise de côté en cas de remontée de taux d'intérêt. On a Alstom aussi, secteur très cyclique, qui prend aujourd'hui plus 4,3% à 16,91 €. Mais les zones de fébrilité sur ce marché, elles sont toujours présentes. D'abord, les valeurs de croissance sont à la baisse sur le CAC 40, notamment les valeurs technologiques dans le sillage du Nasdaq qui a hier perdu 3%. On a STM qui perd 0,7% à 31,56 €. Ou encore, comme autre valeur de croissance, Kering qui perd 0,6% à 452,30 €. Et puis surtout, il faut voir comment on va digérer l'inflation suite des publications des chiffres de septembre. Vous venez d'en parler, hein, plus 17% aux Pays-Bas, c'est assez incroyable. Et pour la moyenne de la zone euro, eh bien, on a battu le consensus, donc c'est aussi impressionnant, hein, plus 10%. Et puis viendra cet après-midi l'inflation américaine, enfin l'indice PCE que regarde beaucoup la Fed. Et il faudra voir donc l'impact aussi sur les marchés de la dette et d'échange qui ont retrouvé un peu de calme, hein, après une semaine agitée. Sur l'indice large, gros rebond pour Solution 30 et Orpea, deux valeurs qui avaient beaucoup perdu après leur publication il y a deux jours. On est en hausse de 8,5%. 3,3% pour Orpea à 11,38€ et de 9% pour Solution 30 à 2,10€. En revanche, Atos est sanctionné après avoir refusé l'offre de Wildpoint concernant son offre concernant l'activité cybersécurité Evidiant qui valorisait pourtant l'entreprise pour un petit peu plus de 4 milliards d'euros. Atos perd 4,8% à 8,24€ aujourd'hui.
Et puis une autre opération de levée de fonds réussie pour les marchés hauts. D'après Porsche hier, c'est Valneva qui a augmenté son capital.
Oui, c'est tout à fait ça. Valneva, alors c'est pas donc pas une introduction en bourse comme Porsche, c'est une augmentation de capital. Cette opération a rencontré une très forte demande et du coup, eh bien au lieu de lever 40 millions d'euros, Valneva a décidé bien de profiter de ces capitaux qui lui étaient offerts et en tout cas ça lui fixait sa levée de fonds à 100 millions d'euros. Des nouvelles actions sur Euronext, mais aussi sur le Nasdaq, hein, parce que Valneva fait l'objet d'une double cotations qui ont été lancées avec une décote de 4%. C'est moins que ce qui avait été prévu. La dilution pour l'actionnaire actuel qui était l'actionnaire avant cette levée de fonds, eh bien, elle est assez forte, hein, 18%. Mais pour l'instant, eh bien, c'est assez bien accueilli pour le marché puisque Valneva est en hausse de 2,08% à 5,22€. Et cette levée de fonds, hein, c'est nouveau, cet argent frais, eh bien, il va permettre de financer les dépenses pour les candidats vaccin de Valneva. Alors, le Covid, on l'a laissé de côté, mais on a deux candidats vaccins qui sont assez bien avancés et qui sont celui contre la maladie de Lyme et celui contre le chikungunya. Et Valneva, qui a en revanche connu un mois de septembre dévastateur, hein, moins 45% ce mois-ci.
Merci beaucoup. Merci Aude Kersulek. Bon week-end à vous. Dans un instant, on va revenir sur la sobriété énergétique, maître mot de cette rentrée. Alors que l'hiver approche, chacun doit revoir sa stratégie de consommation d'énergie et d'économie d'énergie. Surtout, les entreprises seront particulièrement surveillées cet hiver. On va en parler avec Pierre de Montliveau, président de la FEDEN, la Fédération des services énergie environnement, qui sera avec nous dans une minute. Restez avec nous sur BFM Business.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. BFM Business. 60 minutes business. L'invité.
60 minutes business, la sobriété énergétique, maître mot de cette rentrée. Hein. L'hiver arrive et chacun doit revoir sa stratégie de consommation d'énergie, d'économie d'énergie aussi. Les entreprises vont être particulièrement surveillées cet hiver. Bonjour Pierre de Montliveau.
Bonjour.
Vous êtes président de la FEDEN, la Fédération des services énergie environnement. Rappelez-nous ce que vous faites. Vous regroupez 500 entreprises. Vous êtes une fédération professionnelle des entreprises d'économie d'énergie.
Exactement, 500 entreprises, 60 000 salariés qui consacrent en fait leur activité quotidienne, parce qu'ils sont tous les jours dans les bâtiments, au fond à économiser du gaz, soit par des économies d'énergie, soit par le développement des énergies renouvelables, la chaleur renouvelable et de récupération.
Alors, votre activité porte sur combien de bâtiments, combien de sites de production, combien de logements, combien de sont concernés ?
À peu près tous. Oui. On est présent dans 5 millions de logements qui sont au chauffage collectif, mais on fait également la maintenance, l'entretien des chaudières gaz individuelles ou des pompes à chaleur qui se développent. On est présent dans 75 000 bâtiments tertiaires, mais aussi chez les industriels, donc sur 7500 sites industriels.
Alors concrètement, la saison de chauffe des bâtiments commence. Certaines entreprises commencent à dire qu'elles ne passeront pas l'hiver de la même façon que l'année dernière. De quelle façon vous mettez en place concrètement la sobriété énergétique demandée par le gouvernement? Parce que c'est une demande assez récente, mais enfin vous faites ça depuis longtemps.
On fait ça depuis longtemps, mais tout le sujet, c'est la massification. Donc on a évidemment participé de manière intense à tous les groupes de travail lancés par la ministre de la Transition énergétique pour donner les solutions et voir comment on pouvait donc les développer à grande échelle. Grosso modo, nous, le message qu'on porte, c'est qu'il y a trois marches à franchir.
Oui.
Il y a une première marche d'économie d'énergie qui se place à 10%. 10% d'économie d'énergie, c'est pas très compliqué. Si on entretient, qu'on règle bien sa chaudière, si on entretient aussi, ça c'est beaucoup moins connu, mais les tuyaux de distribution du chauffage, de l'eau chaude jusqu'au radiateur, on évite qu'ils soient obstrués, par exemple. Là aussi, on va faire de l'économie d'énergie. Et si on a une vraie pratique du 19 degrés, on va atteindre cet objectif global de 10%. Mais ça ne suffit pas. Face à la difficulté qu'on va connaître, peut-être pas cet hiver, mais l'hiver prochain, sur le gaz, ça va être plus compliqué l'hiver prochain. Mmh. Il faut augmenter le niveau d'économie d'énergie. Ça, c'est la deuxième marche à 20%. Et ça, il faut investir dans le numérique et dans le pilotage à distance.
Oui, parce que pour quand on est un particulier, bon, sur un logement, c'est gérable. Mais quand on est une entreprise, il faut savoir calculer déjà sa dépense, sa consommation, pour ensuite pouvoir la diminuer.
Oui, et il faut dialoguer entre les usagers du bâtiment et celui qui gère l'énergie. Qu'est-ce que j'entends là par dialoguer ? Tout simplement, avoir l'information remplie par les usagers de leurs besoins. Est-ce que telle ou telle salle va être telle ou telle pièce, va être utilisée ? Bon, quand elle n'est pas utilisée, on baisse le chauffage, tout simplement, on ne le coupe pas, on le baisse, et donc c'est facile après de remonter la température. Et avec le numérique, cette information, elle est transmise en temps réel à la chaudière. Mmh. Il y a l'intelligence embarquée pour piloter, et donc avoir un équilibre entre la demande et l'offre permanent.
Mais alors, là, ce que vous dites, c'est déjà s'être mis beaucoup dans le sujet. Combien d'entreprises, combien de bâtiments que vous gérez sont déjà équipés de ce genre d'outils de calcul? Et surtout, il en reste combien à équiper sur le territoire?
Alors, les grandes tours tertiaires, comme on en voit derrière vous, oui, ont été les premières à s'équiper de ces systèmes numériques. Pour autant, il y a énormément de bâtiments tertiaire de plus petite taille qui doivent encore franchir ce pas, que ce soit dans le tertiaire privé ou dans le tertiaire public. Il y a des obligations d'économie d'énergie importantes qui pèsent maintenant sur tous ces bâtiments tertiaires, mais ils sont beaucoup trop lointains puisque l'obligation est à horizon 2030. Là, concrètement, compte tenu de ce contexte énergétique et de ces prix complètement affolants, il faut absolument accélérer.
2030, c'est tenable ?
Ah, mais il faut aller...
Encore plus vite.
Oui, oui. Mais d'un point de vue économique, la bonne nouvelle, c'est que le temps de retour sur investissement, quand les prix de l'énergie s'envolent, il est plus rapide.
Vous notez aussi que, outre le comportement des entreprises, des particuliers face à leur consommation, il faut accélérer la substitution du gaz par les énergies thermiques renouvelables disponibles sur nos territoires. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah bah ça, on a une grande chance en France. On a un beau sous-sol, donc on peut aller trouver de l'eau chaude sous Paris, par exemple. Ouais. On a un massif forestier extrêmement important, parmi les plus grands d'Europe. Et puis, on a plein de sources de chaleur industrielle qu'on ne récupère pas.
La chaleur fatale, on en parlait il y a 2 semaines sur ce plateau, notamment.
Très bien, il faut en parler parce qu'elle est totalement sous-utilisée aujourd'hui. On a analysé les gisements en terawatt-heures, c'est considérable. Il faut pour cela, sécuriser ces investissements, se dire, bon, qu'est-ce qui se passe si le site industriel fournisseur de chaleur va disparaître ? Mais ça s'étudie. Et là, il y a vraiment le moyen d'aller chercher cette énergie là où elle se trouve. En fait, le maître mot, c'est pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est toujours aller chercher la chaleur renouvelable locale.
Mais c'est aussi,
tout le territoire, on a des solutions.
C'est aussi repenser complètement la dépense d'énergie et l'économie d'énergie. Est-ce que les entreprises sont prêtes à le faire ? Est-ce que les collectivités sont prêtes à le faire ? Les petites structures dont vous parliez tout à l'heure aussi, est-ce que tout le monde est suffisamment informé de cela ?
Ah, je crois pas suffisamment. Enfin, on oublie complètement que la chaleur en France, c'est la moitié de nos consommations. Et qu'elle est carbonée, essentiellement du fait du gaz, aux trois quarts. Donc la réponse qu'il faut apporter, c'est une réponse collective, justement, plutôt que chacun fasse une chose dans son coin. Oui. Il y a par exemple une solution très concrète qui s'appelle le réseau de chaleur, où vous avez en fait des tuyaux qui vont transporter de l'eau chaude alimentée par de la chaleur renouvelable, pas à l'échelle d'un bâtiment, mais à l'échelle de la ville entière. Ça existe uniquement dans 800 villes en France. On a analysé les choses. Il y a le potentiel de création de ces réseaux de chaleur verte dans 1300 villes supplémentaires.
Dans ce combat pour mieux gérer notre énergie, comment on se situe par rapport à nos voisins européens ?
Alors, sur ce sujet de la chaleur renouvelable, très honnêtement, on n'est pas très bon.
Oui.
Les réseaux de chaleur dont je viens de vous parler, aujourd'hui en France, c'est juste 5% de la chaleur consommée. vous allez dans plein d'autres pays européens, pas que les Nordiques, aussi en Allemagne, en Autriche, dans les pays d'Europe centrale, ce taux, il est à 20, 25, 30%. Donc on a, bon, faut pas se lamenter, faut se dire au contraire qu'on a un magnifique potentiel de développement.
Oui, parce que ces économies d'énergie vont au-delà de nos frontières. On peut faire ça aussi au niveau européen, peut-être collaborer sur certains sujets.
Exactement, il y a un très très beau projet, justement, vous parliez de chaleur fatale, qui consiste à récupérer la chaleur dégagée par une aciérie allemande pour venir chauffer la ville de Strasbourg. Ça, c'est pas mal.
Oui, effectivement, ça marche bien en Alsace, la coopération européenne. Merci beaucoup, Pierre de Montliveau, président de la FEDEN, la Fédération des services énergie et environnement. Merci d'être venu dans 60 minutes business aujourd'hui. Allez, j'accueille Pierre Kupferman.
BFM Business, 60 minutes business, le top 3 du web.
Le top 3 des articles les plus lus sur notre site. On commence ce top 3, Pierre, par cet article sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, avec cette question, déjà, sont-ils réparables ?
La réponse, c'est plutôt non. Le journal berlinois Tagesspiegel cite une source gouvernementale qui assure que déjà, Nord Stream 1 est définitivement perdu. Et les experts estiment que pour Nord Stream 2, on pourrait éventuellement sauver le gazoduc, mais il faudrait que les réparations se fassent dans les meilleurs délais. Est-ce que vous savez d'ailleurs pourquoi il faudrait le faire vite ?
Non, vous allez me le dire.
Parce que le tuyau dans lequel circule le gaz, il est en acier, et que donc, pour résister à la corrosion, il a été recouvert de polyéthylène. Sauf que là, avec l'explosion, qu'est-ce qui se passe ? L'eau de mer s'infiltre dans le tuyau et donc cette eau, elle va ronger le gazoduc de l'intérieur.
Situation pas du tout rassurante, effectivement. Et on continue avec la problématique énergétique. Ces primes ou remises qu'Engie et Total Energy promettent à leurs clients les plus économes.
Oui, c'était une demande du gouvernement.
Oui, donc, on veut tous savoir si ça va nous concerner.
On va voir. Mais donc, ces deux gros fournisseurs d'énergie, ils ont en tout cas accepté de jouer le jeu. Donc vous avez d'abord Engie qui propose à ses clients de participer à des défis journaliers, uniquement les jours de tension, on ne sait pas combien il y en aura, ça va dépendre du froid cet hiver, mais l'idée c'est de réduire sa consommation par rapport à sa consommation habituelle.
Ouais.
Donc à chaque fois que le client va relever un défi, s'il est victorieux, s'il arrive à faire ce qu'il s'est engagé à faire, eh bien, il va recevoir un bonus en euros.
Et pour Total ?
Alors là, c'est plus simple. Il y a des réductions de prix. Alors, ça va de 30 à 120 euros en fonction de la réduction de la consommation sans défi particulier. Et cette opération qui est baptisée Bonus Conso, elle va débuter le 1er novembre et s'achever le 31 mars. On voit bien que c'est pour l'hiver.
Oui, effectivement. Et puis, on finit avec la dernière nouveauté de Citroën qui intéresse visiblement beaucoup les internautes, Pierre.
Alors, il faut absolument aller la voir sur le site. Vous cliquez sur l'onglet auto, et vous verrez donc à quoi ressemble Oli. Bon, c'est un concept de voiture électrique familiale et abordable. Le design, il est vraiment atypique.
On dirait une vieille voiture.
Alors, il y a une particularité. Oui, grosse voiture, c'est clairement un SUV. Oui. Sauf que quand on la compare au C3 Aircross, au Peugeot 2008, au Renault Captur, à peu près le même volume occupé, vraiment, mais ça pèse pas. Ça pèse une tonne, pas plus.
Oui,
ça, c'est ça, j'ai envie de dire, la particularité, parce que ça va permettre de garantir une autonomie de 400 kg avec une batterie à la fois relativement légère et moins coûteuse, puisque le prix attendu pour ce SUV, ce concept car, c'est 25 000 euros. Il faudra un petit peu attendre.
C'est quand ?
2026-2027. Et puis c'est un concept car. Ce que vous allez découvrir sur le site, c'est pas exactement ce à quoi ressemblera Oli ou si ça a un autre nom, ce nouveau véhicule dans le catalogue de Citroën.
Allez, un peu de patience. Merci beaucoup Pierre Kupferman et on vous souhaite un bon week-end. Restez avec nous dans un instant. On retrouve Lorraine Goumeau et le journal de Stéphanie Collot. À tout de suite.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 60 minutes business, BFM Business avec vous.
BFM avec vous, deuxième partie de l'émission. Lorraine Goumeau est avec nous, évidemment. Bonjour Lorraine.
Bonjour Sandra, bonjour à tous.
On parle de mobilité verte en entreprise aujourd'hui, Lorraine.
Oui, puisque dès qu'on parle de vélo, de trottinette, vous nous écrivez, vous nous posez des questions. Donc aujourd'hui, avec notre invitée Élise Bénéa, on va revenir sur ces sujets. Bonjour Élise.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien, merci.
On rappelle que vous êtes avocate en droit du travail au cabinet Depardieu Brocam à Feilly. Un chiffre pour démarrer, 74% des actifs qui utilisent la voiture comme mode de transport pour se rendre sur le lieu de travail. Et paf, les Parisiens, qui croient que tout le monde est en vélo, 74%, c'est un enjeu pour les entreprises. Vous l'observez avec vos clients, Élise ?
Ah oui, clairement. Et puis, surtout, le transport est le mode d'émission, le mode le plus fort d'émission de gaz à effet de serre. Donc, le transport domicile-travail est le point sur lequel il faut travailler si on veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, clairement. Et les entreprises ont un rôle à jouer.
Justement, on est employeur, on se met de leur côté ce midi. Quelles sont les obligations, au-delà de morale, on va dire légale, de prise en charge des déplacements domicile-travail des salariés? Rappelez-nous un petit peu le cadre juridique.
Alors, il n'y en a qu'une obligation, c'est lorsqu'un salarié prend un abonnement à un transport public, l'employeur a l'obligation de prendre en charge 50% de cet abonnement. Cette prise en charge est exonérée de cotisations et d'impôts. En ce moment, on a pas mal de dispositions qui viennent améliorer tous ces dispositifs et désormais, il est possible pour l'entreprise de prendre en charge plus que 50%, tout en conservant les exonérations sociales et fiscales. On peut aller jusqu'à 75%, donc ça c'est tout nouveau. On a une loi du 16 août 2022 qui est venue prévoir ces dispositifs incitatifs au moins pour les années 2022 et 2023.
C'est-à-dire qu'on est bloqué dans ces dispositifs jusqu'à 2023 inclus, a priori aucune modification possible ?
Si, il y en aura probablement, parce que chaque année on a des lois de finances et des lois de finances rectificatives. Donc là on en a eu une qui est venue mi-août ouvrir quelques champs, notamment en raison de la hausse du carburant, en raison de la nécessité de promouvoir les mobilités vertes. Donc là, on a eu quelques ouvertures et qui, j'espère, seront pérennes, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Alors, comment l'employeur peut encourager l'utilisation par ses salariés de modes de transport moins polluants ? Est-ce qu'il y a des moyens ?
Oui, tout à fait. On a des outils maintenant juridiques et surtout des outils exonérés, des primes exonérées qui peuvent être versées aux salariés. Le premier d'entre eux dont on parle beaucoup, c'est le forfait mobilité durable, qui a été créé par une loi, la loi Pacte, une loi importante en tout cas en droit du travail qui date de 2019 et qui vient permettre aux employeurs de prendre en charge toutes les mobilités vertes, c'est-à-dire le vélo, électrique ou non. Donc, lorsqu'un salarié utilise son véhicule personnel et utilise un véhicule personnel qui est non polluant, donc le vélo électrique, la trottinette électrique, le gyropode et autres nouveaux modes de transport. Il y a aussi le covoiturage qui fait partie de ce forfait mobilité durable. Les services de mobilité partagée, lorsqu'on loue un scooter électrique ou quand on nous met à disposition ce type de mobilité, eh bien, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie de ses frais de déplacement.
Ouais, on l'entend, les modes de transport concernés sont très très larges, du gyropode au vélo électrique, au covoiturage. Physiquement, ce forfait mobilité, comment est-il versé par l'employeur aux salariés ?
Alors, même si c'est un dispositif sous certaines limites qui est exonéré d'impôts et de cotisations sociales, ça doit quand même figurer sur un bulletin de paye. Mais on peut maintenant prendre en charge ce forfait par ce qu'on appelle un titre mobilité. Donc, c'est dématérialisé, c'est comme un titre restaurant. Maintenant, les cartes qu'on a pour les titres restaurants, on a cette possibilité-là qui a été ouverte récemment et qui est beaucoup plus pratique. Par exemple, quand on veut louer un véhicule électrique, on peut tout à fait se servir de ce titre-là et donc de ne pas avancer de frais qui sont ensuite remboursés. C'est tout l'intérêt de ces nouveaux modes de paiement.
Élise, un mot sur l'expression titre transport ou titre mobilité. Est-ce que ça va être aussi obscur que les titres restaurant? Est-ce que ça va être géré aussi par des sociétés dont on ne va pas pouvoir avoir le choix?
Oui, probablement, parce que il faut que ce soit ultra sécurisé pour que ça fonctionne correctement. Donc oui, ce sera le même type de société que pour les titres restaurant. Ouais, ouais.
L'alternative, c'est la prime transport.
Oui.
Qu'est-ce que c'est la prime transport par rapport au forfait mobilité que vous venez de nous décrire?
Alors la prime transport, pour le coup, c'est la prise en charge de frais de carburant ou de frais d'alimentation pour les véhicules électriques. Donc ça, pareil, c'est facultatif. Hein. L'employeur peut prendre en charge ou non les frais de carburant via la prime transport. Cette prime était ouverte auparavant uniquement aux salariés qui ne pouvaient pas prendre les transports en commun, soit parce que leur commune, là où ils les habitent n'étaient pas desservis par les transports en commun, soit parce qu'ils avaient des horaires de travail qui ne leur permettaient pas d'emprunter les transports en commun.
Donc dedans, on retombe sur ces 74% des actifs dont on parlait en introduction.
C'est ça, exactement, qui n'ont pas forcément le choix du mode de transport. Eh bien, toujours dans le même esprit, la loi dont on parlait tout à l'heure de mi-août 2022 est venue supprimer ces deux conditions. Donc maintenant, la prime transport est ouverte à tout salarié qui utilise son véhicule et qui veut se faire rembourser des frais de carburant ou des frais d'alimentation électrique sans que ces conditions leur soient imposées maintenant.
Est-ce qu'elle est cumulable avec le forfait mobilité durable ?
Oui, tout à fait. En fait, tout est cumulable. Les seules limites sont les plafonds d'exonération. Donc, c'est exonéré. Donc, la prime transport, elle est exonérée jusqu'à 400 euros si on parle uniquement de carburant pour les véhicules thermiques. Elle passe à 700 euros si on utilise des véhicules électriques et qu'on parle d'alimentation électrique. Le forfait mobilité durable également, lui, est limité à 700 euros. Et tout cumulé, on peut aller même jusqu'à 800 euros si en plus on a la fameuse prise en charge obligatoire des 50% d'abonnement au transport collectif. Donc, ce sont des enveloppes qui ont augmenté. Hein. Ça a démarré à 400 euros. Aujourd'hui, on est à 800. Donc, les enveloppes ont doublé en 2 ans. Oui. Donc, on espère que ça va continuer.
On va le répéter, c'est exonéré de charges. Relistez-nous les charges qui sautent.
Toutes les cotisations sociales qu'on peut avoir quand on a une paye, normalement, il y a la sécurité sociale qui est prélevée, la retraite, etc. Vous avez toutes ces cotisations. L'employeur, lui aussi, a des cotisations patronales à verser. Ces primes-là sont exonérées de ces cotisations-là. Donc, on peut dire que le brut égale le net. Hein, il n'y a pas de cotisation. Et puis, surtout, ce n'est pas non plus soumis à impôt.
D'accord. Alors, ça veut dire qu'on est quand même dans des dispositifs incitatif pour les employeurs, mais il faut le rappeler et l'évangéliser, il n'y a pas d'obligation.
Pour l'instant, oui. Ouais.
Et ça pourrait changer dans une logique de révolution écologique.
Je pense que pour que ça fonctionne vraiment, il faudrait que ça devienne obligatoire, tout simplement parce qu'on va encore avoir une évolution peut-être à deux vitesses, c'est-à-dire des sociétés qui sont d'une taille importante ou qui font partie de groupes un peu importants et qui ont donc des moyens et qui peuvent mutualiser tout ça, vont pouvoir mettre en place ce genre de mécanisme, là où les TPE et les PME auront plus de difficultés pour le faire, parfois par manque de connaissances et par comme idée que c'est compliqué, alors que ça ne l'est pas forcément. Donc il faudrait que ça devienne obligatoire pour que ça marche, je pense. Ouais.
Voilà, il faut surveiller en tout cas ces dispositifs. Oui. Hein, ça évolue très régulièrement. Merci beaucoup. Les mobilités vertes en entreprise, on y reviendra bien sûr. Ce sera un thème récurrent cette année, c'est sûr. Merci Elise Bénéa, avocate en droit social au cabinet de Pardieu Broca Maffei, d'être venu nous voir dans BFM avec vous. C'est l'heure de notre chronique LinkedIn. Cette question que nous vous avons posée toute la semaine. Travailler dans une start-up fait-il toujours rêver, Lorraine ? Vous êtes cette semaine avec Sandrine Chauvin pour répondre à cette question.
Mais oui, bonjour Sandrine.
Bonjour Lorraine.
C'est l'équipe LinkedIn Actualité qui est avec nous pour revenir sur ce sondage, puisque vous l'avez lancé et qu'il a tourné toute la semaine avec vos algorithmes. Quels sont les résultats de cette question ? Est-ce que travailler en start-up fait toujours rêver ?
Alors, en lumière avec ce sondage, en fait, on a publié un classement annuel des LinkedIn Top Startups qui met en avant 10 jeunes pousses à forte croissance d'après les données exclusives de LinkedIn. Mmh. On retrouve plusieurs fintechs habitués aux premières marches du podium comme Swile ou Payfit, mais aussi, et c'est plus nouveau, des startups spécialistes de l'immobilier comme Mastéos ou encore de l'environnement.
Bon, et on le sait, le sujet, c'est le recrutement, c'est l'emploi, y compris pour elles.
En effet, elles embauchent des ingénieurs, des commerciaux, des experts du marketing. Au total, toutes ces startups prévoient plus de 1500 recrutements sur l'année à venir, et ce, malgré un contexte économique plutôt incertain, comme vous le savez. Mais travailler dans une startup, comme vous le soulignez, fait-il toujours rêver ? C'est justement la question qu'on a posée, comme vous le disiez, à nos membres LinkedIn. Et les résultats sont plutôt étonnants, puisque sur les 7000 répondants, 70% estiment que travailler dans une startup ne fait plus vraiment rêver. Alors, les points mis en avant, c'est notamment les salaires qui sont plus bas que dans d'autres entreprises privées, des horaires aussi à rallonge avec une charge de travail importante. C'est ce que nous souligne Marie, qui est comptable. Il y a aussi l'instabilité, la maturité d'une jeune entreprise qui peut aussi effrayer. Mmh. Et donc, Maxime, qui est ingénieur, conclut que tout dépend finalement du projet et que signer un CDI dans une start-up qui a un projet bancal dès le début, finalement, ce n'est pas vraiment un CDI.
Mais oui, il faut porter son risque au même titre que les fondateurs et les fondatrices. Alors, reste que pour ces start-up dont on parle, ce n'est pas toujours facile de recruter pour les PME, mais pour les start-up aussi. Alors, qu'est-ce que votre sondage peut nous faire remonter comme info ?
Alors, ce qui fait la différence d'après le sondage, c'est la mission. C'est ce qu'affirme notamment Benjamin, qui est community manager, qui nous explique que j'ai l'impression qu'on est passé à une vision projet du travail. Ainsi, la grosse boîte ou la start-up importe moins que le projet et le sens de la mission de ces entreprises. C'est ce que nous rappelle Nicolas, qui est aussi coach, qui souligne que le pourquoi est important. On le voit bien d'ailleurs dans notre classement LinkedIn Top Startup, puisque cette année on a une grosse percée dans la green tech avec Greenly, qui permet de mesurer son bilan carbone via ses transactions bancaires.
Ah oui, grosse mission là.
Une jeune pousse nantaise qui est spécialisée dans la production d'hydrogène renouvelable visant à décarboner l'industrie et la mobilité. C'est une tendance qu'on retrouve à l'international, puisqu'on a vu la percée Too Good To Go, l'appli de lutte contre le gaspillage alimentaire au Danemark, ainsi que beaucoup de start-up spécialistes des batteries électriques. Donc là, on voit que la mission est importante, c'est celle de lutter contre le changement climatique.
Merci beaucoup Sandrine Chauvin et toute l'équipe de LinkedIn Actualité. On vous retrouve vendredi prochain.
Et dans un instant, restez avec nous, BFM avec vous continue, on recrute.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 60 minutes business, BFM Business avec
vous. Comment vous remontez ?
Et c'est l'heure de recruter sur BFM Business. On accueille notre premier recruteur. Il s'agit de Pierre Cognoux. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour Lorraine. Merci de votre accueil.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de ERA 2140. On va vous laisser pitcher votre boîte. Et puis nous donner une explication de ce nom, ERA 2140. Allez-y.
Ouais, je vais commencer peut-être par le nom, du coup. Donc, nous pensons que nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère des crypto-monnaies, l'ère des métaverses, l'ère des NFT, tous ces buzzwords dont vous avez beaucoup entendu parler dernièrement. ERA, justement, pour cette nouvelle ère, 2140, puisque ça sera la date du dernier Satoshi, c'est-à-dire la crypto-monnaie Bitcoin.
Voilà, c'est une deadline, votre nom, finalement.
C'est une deadline.
Alors, qu'est-ce que vous faites avec votre équipe au carrefour de ces univers métavers et autres ?
Alors en fait, à l'origine, on était ce qu'on appelle une agence digitale assez classique, sauf que nous avions davantage de services. C'est-à-dire que comme nous lançons des crypto-monnaies, nous faisons de l'économie, nous faisons également du marketing, nous faisons également des interfaces UX, UI, du design plus simplement. Bien évidemment de la tech, que ce soit du front, du back, donc c'est-à-dire ce que vous voyez sur le site web, le moteur qui tourne derrière le site web, ou même des contrats intelligents, les fameux smart contracts sur Ethereum. Donc nous avions cet ensemble de pôles de services à disposition et nous avons accompagné beaucoup d'entreprises. Et coup de chance, ou beaucoup de travail certainement aussi, ces entreprises ont très bien performé, ont fait de beaux succès. Et là, nous sommes dit, c'est dommage en fait, parce que nous participons énormément à ces entreprises et finalement, on reste que prestataire de services à ces centres. Donc, nous avons opéré un pivot, celui du Venture Studio, où désormais, en fait, nous prenons des participations capitalistiques dans les entreprises où nous accompagnons.
Alors, un pivot de business model, toujours dans le digital. Donnez-nous, pour être très concret pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent rien à ce nouveau digital, des exemples d'entreprises que vous accompagnez.
Oui, bien sûr. Là, en ce moment, nous travaillons avec Navstar, donc il y a une dynamique de créer, en fait, un jeu lié à la musique qui permettra de valoriser les assets que nous investissons dans la musique. Donc ça va être un petit peu compliqué, je pense que le plus intéressant ce serait de faire une émission dédiée à chacune de ces entreprises. Nous créons également des jeux vidéo où en fait la création de valeur qui est générée dans le jeu vidéo permet de se rémunérer également. Donc aujourd'hui on peut être payé à jouer, ce qui peut intéresser beaucoup des auditeurs, je pense. Nous créons également des plateformes de DeFi, de finance décentralisées. Donc en fait vous allez pouvoir trader, échanger, augmenter la valeur de votre portefeuille, enfin même des Metaverse, où là, justement, c'est cette nouvelle forme d'Internet qui est en train d'évoluer. On ne sait pas encore exactement où nous allons, mais de la même manière, il était très difficile en 1995 d'envisager qu'Internet permettrait d'envoyer des emails ou d'acheter sur le e-commerce. Nous savons que c'est l'avenir, mais nous ne savons pas encore comment nous allons créer.
Alors, pour créer cet avenir, vous recrutez 8 personnes. Donnez-nous la liste des personnes qui sont urgentes pour continuer à grossir.
Ces 8 personnes doivent être là demain. c'est pour ça, d'ailleurs, que nous revenons sur votre plateau, puisque la dernière fois, ça s'était très bien placé.
Au Paris Blockchain Summit,
c'est ça.
Rencontré. rencontrer. Ouais.
Au Paris Blockchain Summit, tout à fait. Nous avons pu débaucher des personnes dans de très belles entreprises grâce à votre émission. Donc, merci beaucoup.
Oui, ça marche pour ceux qui nous écoutent.
Oui, ça fonctionne même très bien. Aujourd'hui, nous recrutons 10 personnes, essentiellement des profils tech et produits. Hein, donc, beaucoup de développeurs, beaucoup de chefs de projet, beaucoup de product owners, de scrum masters, essentiellement sur ces métiers-là. À savoir qu'aujourd'hui, c'est une dizaine de personnes. Mais là, également, sur les 4 prochains mois, nous recrutons toujours 30 personnes, puisque nous avons de nombreuses entreprises qui sont en train de rentrer dans le venture, dont quelques-unes dont, à mon avis, vous entendrez bientôt parler.
Voilà, c'est dit, c'est pitché. Pour postuler, vous pouvez écrire directement à Pierre, dont l'adresse s'affiche à l'écran. C'est p.coniou@era2140.com. Vous allez retrouver aussi cette interview d'ici quelques minutes sur LinkedIn et sur Twitter. Voilà, pour participer à un Venture Studio, ça se passe chez ERA2140. Merci beaucoup, Pierre.
Merci beaucoup, Lorraine. Très bonne journée.
Je vous précise que, comme Pierre, pour réussir à recruter, c'est très simple. Vous venez nous voir en plateau, on vous accueille, ou si vous êtes en région ou en remote, on peut faire ça par FaceTime et puis par Skype. Des adresses pour nous joindre, c'est par email à avecvous@bfmbusiness.fr. Vous pouvez nous alpaguer sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Instagram, Sandra et moi et notre productrice Annalisa, avec le hashtag BFM Business avec vous. Et puis bien sûr, sur le site BFM Business, il y a aussi un petit formulaire que vous pouvez remplir. L'UX n'est pas très belle, mais ça arrive dans nos boîtes mail. Notre deuxième recruteur, il s'agit de Stéphane Bras. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un porte-parole un petit peu particulier sur notre plateau, puisqu'on va parler d'un secteur, celui de la dératisation, de la désinfection, parce que c'est un secteur, comme beaucoup d'autres, qui est pénurique et où pourtant il y a 1000 opportunités. Et on est ce midi avec vous pour parler de ces opportunités, pour que ça se sache.
Absolument.
Alors, ce n'est pas un secteur facile à pitcher. D'habitude, ici, on reçoit des boîtes dans la tech, on reçoit des boîtes dans l'alimentation, dans le commerce, dans la data. Alors, parlez-nous de votre secteur. Qui sont les acteurs et les incarnations de, entre autres, la dératisation ?
Eh bien, en fait, tous les secteurs que vous venez de citer à l'instant, mais bien d'autres, tous les secteurs qui constituent la société dans son ensemble, nous sommes les acteurs de la protection de ce que l'humain vit au quotidien. Donc on protège l'industrie, on protège l'hébergement. Tout ce que vous faites du matin jusqu'au soir est protégé par une société qui fait appel à nos sociétés.
Mais oui, parce que aussi bien les logements, les habitations, que les bureaux, que les commerces, que les ponts d'alimentation ont besoin d'être protégés contre les parasites, contre les nuisibles. Et disons que la situation sanitaire de notre pays et de Paris, pour ne citer que cette ville, vous donne du boulot.
Absolument, absolument. Il y a plein de facteurs. Le changement climatique en particulier opère bien des modifications. La régulation des insectes n'est plus effectuée comme auparavant par la saisonnalité. Les hivers rigoureux n'existent plus. Et donc aujourd'hui, on fait face à de nombreux problèmes. Vous avez cité les rats, mais il y en a bien d'autres. Les insectes tels que les moustiques tigres qui propagent des maladies dites vectorielles avec un risque d'arrêt de l'économie en particulier. C'est un peu le pendant de ce qui s'est passé avec la Covid. Dès l'instant où on a ce genre d'affection, on fait de la désinfection. On a été très sollicité pendant la période Covid. Et d'ailleurs, il faudrait que les réflexes restent, parce qu'effectivement, les virus et bactéries sont toujours présents.
Ouais, c'est une mission d'utilité publique de rejoindre votre secteur. Alors, on n'a malheureusement pas beaucoup de temps pour en parler, mais le portrait, c'est plus de 3000 entreprises, beaucoup des TPE et des femmes aussi dans votre profession.
Oui, oui,
alors, qu'est-ce qu'on peut, pour résumer, dire des types de postes qui sont à pourvoir ? Il y en a 1000, en gros, par an. Dites-nous, listez-nous les types de postes pour ceux qui nous écoutent.
Principalement, nous sommes une société de services, nous ne vendons pas de produits en particulier. Donc, on va avoir besoin de techniciennes et techniciens qui vont délivrer les services, du conseil, des très bonnes capacités de communication.
Presque une mission pompier, en fait.
C'est une mission de santé publique. Voilà. Et lorsque l'on va chez nos clients, on est là comme un peu des médecins et on va conseiller, en fait, comme on va conseiller un patient, on va donner des préconisations. On va aider. Et si on n'était pas là, il y a bien des industries et des systèmes qui ne fonctionneraient plus.
Voilà, vous l'avez entendu, techniciens, techniciennes, et aussi côté conseil, parce qu'il faut conseiller les gens qui viennent vous voir souvent en détresse. Je précise que vous êtes le porte-parole de la Chambre syndicale dératisation, désinfection, désinsectisation. Trois titres qui résument le chantier et les problèmes auxquels on fait tous face. 9000 actifs dans votre secteur, 1000 postes à pourvoir tous les ans. On forme, on recrute et on a besoin de vous. Voilà, on essaye de passer des messages pour les secteurs compliqués et pénuriques. Merci de nous avoir suivis. Je vous précise un mot rapide de ce dont on parlera lundi. Lundi, ce sera droit du travail. On reparlera du chômage partiel, évidemment, puisqu'il est de nouveau sur la table.
Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast et en replay sur notre appli, sur notre site. Je vous retrouve à midi, lundi, pour 60 minutes business. D'ici là, passez un très bon week-end.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.